Chaque samedi à 8h30, Radio Tapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Tapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Vous désirez vous lancer dans la culture de l'ail, un condiment couramment utilisé dans la cuisine congolaise. Sachez qu'il y a des techniques pour mieux réussir la culture de ces légumes et mieux entretenir un champ d'ail. Quelles sont ces techniques? Nous avons dans ce studio l'ingénieur Bruno Kisaka, comme je l'ai dit. Bonjour, ingénieur.
Bonjour, ingénieur.
Alors, d'entrée de jeu, est-ce que la culture de l'ail est une culture saisonnière?
Oui, la culture de l'ail, c'est une culture que, malheureusement, que nous ne pouvons pas faire toute l'année, compte tenu des contraintes environnementales. Mais elle peut bien se faire en saison sèche.
Donc la saison, c'est la saison A ou la saison B?
La saison C.
La saison C. Donc nous rappelons que nous avons trois saisons normalement dans notre pays, dans les saisons culturelles. Oui. Il y a la saison A, la saison B et la saison C. Oui. Généralement, il y a certains produits qui sont favorables dans telle ou telle autre saison. Alors, il existe quand même des conditions édaphiques pour la réussite de cette culture.
Et pour réussir
quand on parle de conditions édaphiques, c'est le sol.
Le sol. En ce qui concerne le sol, pour bien cultiver et réussir votre champ d'ail, il faut un sol argilo-sableux. Parce que l'ail, il faut un sol, je disais, argilo-sableux, parce que l'ail, c'est une bulbe, il faut que le sol soit assez meuble pour qu'il se développe bien. Mais je veux aussi insister sur le fait que le sol doit être riche. Généralement, il est conseillé d'apporter un peu de la matière organique. Les sols de Kinshasa sont généralement pauvres, ils sont généralement sableux. Si nous sommes à Kinshasa et aux environs, j'ai conseillé aux producteurs d'amender le sol avec un peu de matière organique. Donc, il faut bien préparer le sol. À apporter tout ce qu'il faut pour que votre ail se développe bien. En dehors de ça, l'ail, curieusement, on le plante. Non, il n'y a pas chez nous des graines pour planter comme nous le faisons avec les autres cultures. Mmh. Mais pour l'ail, nous avons des bulbes. Ce sont ces bulbes-là qu'on essaie de classer. Hein? On essaie de classer ça en plusieurs tailleux. Et ce sont ces tailleux-là que nous utilisons comme semences pour planter notre ail.
Alors, le sol doit être riche en azote et en potassium.
Oui, il doit être riche en azote, mais doublement riche en potassium et en phosphore.
Pourquoi doublement riche en potassium?
Oui,
parce que nous savons que pour le riz, ça ne pose pas de problème, et les arachides, juste il suffit de potassium, on peut faire l'affaire, mais pour les cas de l'ail, vous dites doublement riche en potassium.
Oui, doublement riche, je dis parce qu'il faut... la formule idéale, c'est les 10-20-20. C'est pourquoi je dis doublement riche en phosphore et en potassium. Le potassium, ça facilite l'accumulation des réserves au niveau sous-sol. C'est le bulbe que nous avons besoin pour l'ail. Et pour faciliter l'accumulation des réserves, nous avons besoin de potassium. Et le phosphore, ça donne un peu la consistance.
Ah, si je comprends bien, l'ail ne peut pas être cultivé sur un terrain marécageux.
Non. Donc, sur le terrain marécageux, on ne saura pas bien cultiver de l'ail. Parce que ça va même pourrir. Ça va même pourrir parce qu'il y aura suffisamment d'eau. Il faut un sol drainé. Vous-même, vous allez régler l'arrosage. C'est comme ça que je dis, en saison sèche, c'est plus facile. Parce que c'est nous-mêmes qui contrôlons l'eau que nous apportons dans notre culture. L'excès d'humidité va entraîner une maladie qu'on appelle l'alternariose. C'est vraiment l'ennemi numéro un. Pas seulement pour l'ail, mais pour aussi tous les... le légume de la famille des liliacées. Nous avons le poireau, nous avons l'oignon, nous avons la ciboulette. Donc tous ces légumes-là sont sensibles à l'alternariose. L'alternariose attaque quand il y a trop d'humidité. Pour éviter l'humidité, il faut un sol vraiment drainé et éviter d'arroser trop tard le soir ou tôt le matin.
Alors en pratique, comment s'y prendre pour se lancer dans cette culture? On commence par quoi et puis quelles sont les étapes à suivre?
Bon, nous avons notre ail, comme vous avez dit, il faut l'éclater. Quand vous l'éclatez, notre bulbe, quand vous l'éclatez, vous avez plusieurs cailloux, ce que nous appelons nos cailloux. Il est conseillé, avant de planter, de tremper ça pendant quelques heures dans une solution fongicide, insecticide. Et ça permet d'enlever toute trace de champignons ou quelques insectes qui pourraient s'y cacher. Alors, quand vous avez bien préparé votre lit de semis, il faut maintenant planter votre, vos cahiers là aux écartements de 20 cm x 8 cm. Donc, je dis 20 cm entre les lignes et 8 cm sur la ligne. Mais alors, quand vous plantez, il faut faire très attention. Il ne faut pas trop engloutir votre cahier sous-sol. Il faut vraiment effleurer le sol. Il faut que la partie mince dirigée avec le sol effleure un peu le sol, comme nous le disons quand nous répliquons au niveau du collet. C'est à peu près ça. Ça permet une bonne reprise de votre culture.
Ça, c'est la troisième étape.
Oui. Mais il faut aussi apporter la fumure minérale. Nous avons parlé de la fumure organique, mais nous utilisons aussi comme engrais de fond. Engrais de fond, nous pouvons utiliser le NPK. Le NPK, c'est, c'est 10% d'azote, 20% de phosphore et 20% de potassium. Donc, si nous pouvons trouver un engrais.
Donc, si je comprends bien, les maraîchers, donc peut-être des fortunes, doivent faire attention à ne pas utiliser n'importe quel compost.
Oui, le compost doit être vraiment bien décomposé. Le fumier de vache. Le fumier de vache est riche en phosphore et riche en potassium. Donc, il est assez équilibré pour que vous puissiez planter toutes, je dirais, un petit peu légumes sans trop de problèmes. Il y en a d'autres, par exemple. Vous avez la gadoue, ce qui nous vient de tout ce qui est comme déchets ordures de la ville. Bon, cette fumure organique est un peu plus riche en azote. Est un peu plus riche en azote. Donc, il ne sera pas vraiment la bienvenue pour faire notre culture d'ail.
Oui, nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent participer à cette émission en composant les 081-890-63-77. La question sur la culture de l'ail vous intéresse au plus haut point et composez donc les 081-890-63-77 ou carrément nous faire par SMS en composant les 081-070-20-50.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Irénée. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Jérémy Do, vous appelez de Bandundu, voilà, bonjour. Bonjour Jéry.
Bonjour.
Voilà, Jéry, on a la motuna. Allô, Jéry. Voilà, donc il est déjà en ligne. Jéry, bonjour. Voilà, on va peut-être récupérer, donc nous rappelons d'abord les étapes. Monsieur Bruno, vous avez dit, d'abord il faut commencer par éclater le bulbe, ensuite tremper dans une solution avec insecticide.
Insecticide et fongicide.
Fongicide, qui aura quel effet ?
C'est juste pour éviter que éliminer toute trace de champignons, toute trace des insectes, même les œufs des insectes sur le produit, qui peuvent être vraiment ingérés à l'œil nu, pour éliminer toutes ces traces-là sur notre semence.
Oui, alors combien de temps ça peut nous prendre, toutes ces étapes combien de temps c'est pas entre chacune de ces étapes?
Non, pour tremper, c'est juste quelques heures. Pour prendre, il y a des produits qui sont à la fois insecticides et fongicides qu'on utilise généralement pour protéger les semences. Je donne un exemple, par exemple, le cyperomyce, c'est un produit qui est fongicide et insecticide qu'on utilise pour préserver la qualité des semences. Pour protéger ces semences, vous pouvez un petit sachet dans 10 litres d'eau. Vous sachez de 50 grammes, vous mettez ça dans un livre pendant quelques heures, ça suffit, vous enlevez et directement vous pouvez planter votre ail.
Donc après vous préparez le lit, ça
vous avez déjà préparé votre lit, vous respectez simplement les écartements, vous recevez des écartements, vous pouvez, comme j'avais dit, mettre les engrais de fond. Les engrais de fond, nous les mettons avant la culture. Donc, pendant que vous préparez votre terrain, un ou deux jours avant, vous pouvez épandre l'engrais de fond. Donc là, nous pouvons, s'il faut aller en termes d'hectares, nous pouvons mettre 10 tonnes de ces NPK par hectare. C'est extrapolé par rapport à votre superficie. Mais quand vous avez planté, dès qu'il y a la levée, vous pouvez maintenant ajouter un peu d'urée, hein, un peu d'azote. Là, ça favorise le développement végétatif. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez faire comme engrais.
Alors, quels sont les risques qu'on encourt quand on engloutit trop son caillou, hein, son caillou sous le sol?
Donc, si on l'engloutit trop sous le sol, d'abord, ça va prendre du temps pour lever. Et puis, si ce n'est pas, si le terrain n'est pas bien préparé, et s'il est trop humide, vous pouvez avoir des pourritures. Donc, il y aura des ratés. Donc, il y aura des espaces qui seront vides parce que vous l'avez trop englouti. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment le fleurer un peu au niveau du sol. Là, vous avez une bonne reprise.
Abel Badibanga de Kananga, bonjour.
Ok, bonjour. Je disais que, comme le dit le technicien, l'ail a besoin de beaucoup de potasse et d'azote. Et puis, en cas de rotation, quel légume que l'ail doit précéder?
Voilà, nous avons également Joël Bongol. Qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Joël.
Bonjour Jérémy.
Quelle est votre question?
Oui, quel conseil l'invité peut nous donner? Nous qui sommes à l'Équateur, là où il pleut presque chaque jour, et aussi il se pose aussi un problème de changement climatique.
Merci beaucoup Joël. Alors, ingénieur Bruno, on commence d'abord par la question de Abel.
Oui, notre ami qui posait la question tout à l'heure pour savoir quelle est la culture que nous pouvons utiliser dans la rotation avant l'ail. Nous pouvons dire d'abord qu'il faut d'abord écarter de la rotation toutes les légumes de la même famille. Donc vous n'allez pas planter l'oignon, vous n'allez pas planter le ciboule, vous n'allez pas planter le poireau avant l'ail. Parce que là, vous serez exposé aux mêmes maladies et généralement, l'oignon comme l'ail ont besoin des mêmes éléments de vie pour faire grossir leur bulbe. Mais par contre, vous pouvez utiliser d'autres cultures. Vous pouvez utiliser par exemple la tomate. Vous savez, la tomate, l'élément important qui est exporté, c'est la potasse. Et si vous remplacez votre substrat de tomate par l'ail, donc, sous-sol, vous aurez suffisamment de potasse dont l'ail a besoin. Donc, il faut pas mettre en émo des cultures de légumes racines. Donc, il faudrait éviter de précéder la culture d'ail avec des légumes racines. Parce que ces légumes racines auront exporté toute la potasse que vous aurez besoin pour faire grossir vos tubercules, vos bulbes d'ail.
Joël Bongolo a parlé de conseils que vous leur donnez parce qu'à l'Équateur, il pleut abondamment et c'est chaque jour.
Oui, à l'Équateur, il pleut abondamment. C'est vraiment un peu difficile pour faire pousser certaines cultures maraîchères à l'Équateur, avec cet environnement. Si on peut trouver un peu de temps où il ne pleut pas suffisamment, on peut faire des cultures. Mais par contre, je pourrais leur demander de faire ces cultures-là dans des endroits un peu surélevés. Des endroits surélevés où nous ne pouvons pas craindre l'excès d'humidité. C'est-à-dire, quand il pleut, par exemple, l'eau peut facilement être drainée, l'eau peut s'évacuer. Et cette façon-là, ça ne crée pas trop d'humidité. C'est ça le problème. Donc, si nous pouvons trouver des endroits où nous pouvons, qui sont bien drainés, où le sol n'est pas gorgé d'eau, nous pouvons, mais il faut aussi voir la saison. Donc, si on a, je ne sais pas,
donc,
si on a
une saison, c'est l'ennemi,
c'est vraiment l'ennemi. Donc, il faut trouver un peu de temps s'il y a une période qui correspond avec son temps, son pays, une petite saison sèche. Je crois que c'est la période où on peut tenter de faire cette culture d'arcide. Sinon, C'est un fait
oui, la probabilité de réussite de la culture de l'ail tourne autour de combien à peu près? Quand vous respectez toutes ces étapes, toutes ces techniques, on peut dire que toutes les bulbes là, vous obtenez les résultats escomptés?
Oui, mais si vous faites bien votre culture, il y a en dehors de ça, il y a aussi les entretiens. Je voulais aussi insister sur les entretiens.
On va parler.
Quand on veut planter, ça ne suffit pas, mais il faut aussi faire les entretiens. Entre autres, le sarclage. C'est comme tous les liliacées, comme l'oignon. L'ail aussi, c'est vraiment l'ennemi numéro un, c'est les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ça pousse facilement. Donc, il faut bien contrôler votre champ, enlever tout ce qui est mauvaise herbe, parce que cette concurrence va faire en sorte que vous n'ayez pas de bons résultats. Mais si vous faites bien votre champ d'ail, vous pouvez arriver à 10 tonnes à l'hectare.
Ben oui, ben c'est pas facile hein, de réserver le champ. Est-ce que pour l'ail, il y a aussi des dispositions pratiques particulières à observer pour éviter soit de tomber en cherchant à lever les herbes?
On peut utiliser des herbicides. Hein. Ça, en tout cas, c'est dans des grandes exploitations. Hein. Quand on fait une grande exploitation, vous ne voulez pas prendre des risques. On utilise des herbicides en pré-levé. Cela veut dire que avant de planter, vous épandez d'abord les insecticides et ça tue toutes les semences, toutes les mauvaises herbes sur le sol, avant même de pousser. Et après, vous pouvez planter votre ail et vous allez constater qu'il n'y aura que des ailes seulement qui vont pousser jusqu'à la fin de votre culture. Ça, c'est les herbicides en prélevé. Mais, en tout cas, c'est difficile, mais il faut le faire manuellement. Parce que là, nous parlons aussi du problème de gestion de l'environnement. Il ne faut pas essayer d'utiliser trop de pesticides. En utilisant manuellement, c'est un peu difficile, mais vous pouvez obtenir de bons résultats tout en évitant des produits chimiques qui sont des fausses toxiques.
Mais intérêt qui est resté longtemps en jachère, si vous pouvez les récupérer avec la culture de l'ail, et à tout de même.
Non, ça c'est un terrain vraiment idéal. C'est le terrain idéal, un terrain qui est resté en jachère. Donc, si vous amassez, créez suffisamment d'humus, la matière organique s'est bien déposée, et vous pouvez bien le faire. Mais sauf que vous devez contrôler l'influence des champignons. L'influence des champignons.
Comment les contrôler?
C'est-à-dire prévenir avec quelques traitements phytosanitaires, avec des fongicides. Hein, avec des fongicides, ça peut prévenir les attaques des champignons. Mais sinon, un sol en jachère, c'est vraiment un sol idéal pour la culture de l'ail.
Et vous avez dit qu'il faut également apporter la fumure minérale. La crainte, ou peut-être la curiosité de certaines personnes, c'est de parce qu'un sol qui est déjà riche à l'azote est doublement riche en potassium. Si vous ajoutez encore la fumure minérale, on n'en fera pas trop. Il n'y a pas de risque.
Le problème pour nous ici, c'est que nous n'arrivons pas à faire les analyses du sol et pour savoir, pour tester, comprendre combien d'éléments d'azote, de potasse et de phosphore notre sol dispose. Nous avons cette difficulté-là. Ce n'est pas facile de faire les analyses du sol. C'est comme ça, nous partons avec ce principe comme si le sol ne disposait pas grand-chose. Et on va dire, voilà, nous allons apporter autant de kilos d'azote, de phosphore et de potassium selon les besoins. Parce que ça, ce sont des besoins exprimés, des besoins de la plante que nous devons apporter. Logiquement, on devrait d'abord comprendre ce que le sol dispose et essayer de compléter. Malheureusement, on n'a pas suffisamment. De temps en temps, c'est un peu compliqué de faire des analyses du sol. Et on apporte ce que nous pouvons apporter. Et
on entend souvent les gens dire que tout le sol congolais est fertile, hein. Donc on peut en faire ce qu'on veut.
Oui, le sol est fertile.
Mais en quoi vos propos, c'est comme si c'était une fausse évidence.
Il faut nuancer. Je vous donne un exemple. Les sols de Kinshasa sont sableux. Ça, c'est pour tout le monde. Et si vous devez cultiver sur le sol sableux de Kinshasa, rien à faire. Vous devez l'améliorer. Vous devez apporter la matière organique. Avant même de penser à apporter de la fumure minérale ou les engrais, vous devez d'abord améliorer la structure de ce sol. Donc vous devez apporter la matière organique suffisamment. De cette manière, si vous ajoutez un peu d'engrais, votre culture peut utiliser l'engrais que vous allez apporter. Sinon, si vous mettez de l'engrais sur le sable, avec le phénomène de lessivage, donc vous n'allez plus rien récolter. Donc, c'est vrai, nous sommes dans un pays riche, le sol est riche, mais il y a des particularités. Moi, je vis en Bazangou, le sol de Bazangou est argilo-sablé, il est différent du sol de Kinshasa. Vous comprenez? Donc, pour ce type de sol, il y a des techniques particulières d'amélioration.
Voilà, nous rappelons à nos auditeurs nos numéros, c'est le 081-890-63-77 pour les appels, et le 081-070-20-50 pour les SMS.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les bâtiments, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, et 9h, on est en train.
Josias Mafuta, vous êtes à Kikwit, bonjour. Bonjour Josias.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ma question est qu'il y a un fertilisant qui est récemment sorti, on l'appelle Gigo. Est-ce que c'est aussi, on peut aussi l'adapter à cette culture?
Voilà, un fertilisant, ingénieur, est-ce que c'est possible d'adapter ce fertilisant à cette culture de l'ail?
Oui, je ne sais pas répondre directement à la question parce que je ne sais pas la composition exacte de ces fertilisants. Si notre ami Josias Kikwit pouvait nous préciser, ces fertilisants, ils contiennent combien d'azote, combien de phosphore, combien de pourcentage de potassium, ça pourrait nous faciliter à comprendre le plus quel genre de culture, est-ce qu'il peut correspondre à il peut convenir pour notre culture d'ail ou pas. Ce serait mieux de nous préciser.
Oui, Josias, vous êtes avec nous?
Oui, oui.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter cette précision?
Bon, la précision là-dessus, pour savoir il y a combien d'azote, combien de potassium, là, c'est un peu difficile. Mais on l'utilise récemment pour la croissance des légumes, des bananiers.
Et vous avez essayé, quel était le résultat?
Bon, les résultats sont très positifs. On vient de m'apprendre, mais on peut aussi l'utiliser pour la croissance du manioc.
Bon, généralement, vous allez essayer un peu de voir si l'emballage de cet engrais. Vous allez voir, normalement, le fabricant est obligé de mettre la formule de l'engrais sur l'emballage. Hein, vous allez essayer un peu de voir, mais si vous dites que ça fait bien pousser les maniocs, je présume que ça peut aussi convenir pour l'ail.
Voilà, alors merci Josias, nous saluons tous les Kikutois qui nous suivent en ce moment. Et Jean-Paul Mouzélé de Mahagui, vous êtes avec nous, vous êtes aussi avec nous. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Bonjour à l'invité.
Oui, et quelle est votre question?
Ma question, c'est de savoir, il arrive des fois, vous allez voir quelqu'un qui réunit toutes les conditions citées là ou avec notre invité, et le sol arable, et puis il a bien entretenu le sol afin de mettre les graines de l'équipe dans le sol. Mais en fait du compte, on arrive à voir que ça n'a pas bien produit. Alors, je ne comprends pas si cela est dit à quoi.
Merci beaucoup cette question de se reposer. Vous savez, nous n'avons pas que les techniques à mettre en place, mais nous avons aussi à gérer ce qui est un peu plus compliqué, l'environnement dans lequel la plante doit évoluer. Nous disons, il y a ce que nous appelons, nous, en termes techniques, faire une analyse de l'agro-écosystème. C'est-à-dire essayer de comprendre la plante et son environnement immédiat. L'autre fois, j'expliquais ici à la radio, au Capi, à un ami qui me demandait s'il pouvait faire pousser les pommes de terre en Mandaka. C'est un peu compliqué parce que le climat ne le permet pas. Vous pouvez apporter tout ce que vous pouvez, mais si l'environnement dans lequel pousse votre plante ne le permet pas, en tout cas, vous n'aurez rien, vous n'allez pas récolter. Donc, il faut gérer tout ce qui est autour de votre plante. Il y a des pressions parasitaires. Hein, il y a aussi le climat, il y a les pluies. Maintenant, il y a ce phénomène de changement climatique qui vient un peu nous déranger. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres pour arriver à produire. Vous pouvez mettre l'engrais, le sol est bon, les semences sont bons, mais il y a aussi l'environnement autour de la plante qui a aussi un mot à dire sur votre production.
Oui, monsieur l'ingénieur, en observant notre géographie, quelle est la partie du pays qui est favorable à cette culture de l'ail?
Oui, la culture de l'ail, on peut bien le situer à l'est. Hein, à l'est, il fait un peu plus frais. J'ai rencontré quelques producteurs en Bazangungu. Ils ne sont pas nombreux, mais qui le font quand même en saison sèche. Ils essaient de faire l'ail en saison sèche. Quelques chances que j'ai visité en Bazangungu où je travaille. Mais dans les régions d'altitude, c'est vraiment idéal, le climat il est bon, surtout en saison sèche, pour faire ce genre de culture.
Mais les formants qu'on obtient, la quantité là, la forme, c'est pratiquement la même à l'est.
Non, c'est pas évident. En tout cas, c'était.
Avec les pommes de terre, nous avons vu avec les séances de pommes de terre, à l'est, vous avez des grosses pommes de terre, et en Bazangongo, c'est de petite taille, hein, c'est de petite taille, et c'est lié au climat.
Non, en Bazangongo, le pomme de terre, parce que nous produisons de grosses tubercules. Mmh. Parce que nous faisons venir des semences améliorées de l'étranger, de l'Europe. Mais si vous amenez de bonnes semences, vous pouvez avoir de gros tubercules, comme c'est déjà amené dernièrement ici.
Alors, vous, là, je ne dis pas que les problèmes ne se posent pas, que ce soit à l'est ou à l'ouest.
Oui, ça peut donner ce conseil. Je vous dis, il y a le climat qui joue, mais il y a aussi la technique. Il faut lier les deux. Il faut lier les deux et il faut choisir un bon moment. Nous ne sommes pas aussi gâtés comme nos amis qui sont à l'est. Ils sont tellement en latitude, surtout la région de Goma. Je crois que je parle de l'est, je vois bien le Kivu. La région de Goma, ils sont en latitude, ils peuvent se permettre de faire des légumes européens sans trop de problème.
Ingénieur Bruno Katsiak-Kitsiaka, vous êtes expert en horticulture urbaine et périurbaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous retrouvons très prochainement pour d'autres éclairages et surtout autour des différentes cultures. Merci et à très bientôt.
Merci, Pierre. Au café.